Il est 19h. Le journal Anne Auger, bonsoir.
Bonsoir, voici le menu de ce journal de 19h décalé. La rentrée, assouplir les règles d'isolement pour éviter une paralysie de l'activité du pays. Que faire ? Face à l'épidémie de Covid-19 qui n'en finit pas de progresser en France, le gouvernement apportera des réponses demain lors d'un nouveau conseil de défense sanitaire. On entendra dans ce journal l'une des médecins qui réclame un report de la rentrée scolaire en janvier. Et nous irons à Johannesburg en Afrique du Sud. Tout le pays pleure l'un des derniers géants de la lutte contre l'apartheid, Desmond Tutu et son sourire légendaire. Dernier match de top 14 de rugby avant fermeture des stades. On peut se poser la question tant les rencontres du Boxing Day sont tombées les unes après les autres. Ce soir, il ne reste que Perpignan-Castres et Fanny Le Chevestrier est à Perpignan. Et quoi de mieux qu'un regard sur cette année pour s'avancer vers le 31 décembre? C'est ce que Antoine Quevilly vous propose ce soir. Ce grand moment de janvier 2021, par exemple.
Le 46th président des États-Unis. Joseph R. Biden Jr.
L'investiture de Joe Biden aux États-Unis après 4 ans de Donald Trump. La météo à la fin de ce journal. Une nouvelle perturbation demain, nous dira Jean-Pierre Rameau. Et à 19h30, les petits bateaux de Noël Bréham.
Bonjour, je m'appelle Gabrielle, j'ai 8 ans et je voudrais savoir pourquoi nous mangeons les châtaignes et pas les glands. Merci, au revoir.
On te répondra tout à l'heure après le journal, Gabrielle.
France Inter.
Un nouveau conseil de défense sanitaire demain face à une vague de Covid-19 galopante partout en France. Il sera présidé par Emmanuel Macron et la question, bien sûr, c'est celle des mesures, des restrictions peut-être qui seront prises avant la nouvelle étape à haut risque de contamination. Qu'est le nouvel an. Ce matin, 50 médecins ont adressé une demande au ministre de la Santé, Olivier Véran. Il faut mieux protéger les enfants, disent-ils. Le virus circule trop activement dans cette population. Alors, ils proposent une série de mesures, mais la plus forte, c'est de décaler la rentrée scolaire. Car dans les écoles, les protocoles sanitaires ne sont pas à la hauteur. Hélène Rossino est médecin en santé publique à Nancy.
Aujourd'hui, le nombre de cas a explosé. On l'a vu hier, on était à 105 000 cas par jour. La circulation est extrêmement importante dans les écoles et surtout, les protocoles qui sont normalement destinés à protéger les enfants sont complètement inefficaces. Et ça fait un an et demi maintenant qu'on en parle, mais ça commence à se voir vraiment maintenant qu'on a une circulation virale aussi importante. Donc, le but, c'est pas de reporter la rentrée pour reporter la rentrée, c'est de reporter la rentrée en attendant que un protocole efficace et chiffré puisse être mis en place. Aujourd'hui, on a un protocole avec différents niveaux, 1, 2, 3, 4, mais on n'a aucune idée d'à quel moment on passe du niveau 2 au niveau 3 au niveau 4. En fait, on n'a aucune idée de ce qui déclenche le passage d'un seuil à l'autre. Personne ne peut anticiper quand c'est comme ça. On a l'impression qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font, le ministère de l'Éducation nationale, avec ce protocole.
Propos recueillis par Léo Limon de France Bleu Sud-Lorraine. Aujourd'hui, 3300 patients sont en réanimation en France, 17 de plus qu'hier. Les Français n'ont pas lésiné sur les tests ces derniers jours. Plus d'un million réalisés sur la seule journée de jeudi, sans compter les autotests très très demandés en cette période de réveillon. Dans les pharmacies, on est à flux tendu. Mais Gilles Bonnefond, le porte-parole de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, assure que s'il y a des tensions, il n'y a pas de risque de rupture de la chaîne de dépistage.
On a délivré entre 80 et 120 000 autotests tous les jours dans toutes les pharmacies. C'est autant que ce que l'on a fait en 8 mois, en quelques jours. La semaine dernière, il y avait 58% des pharmacies qui n'en avaient plus, donc qui avaient tout délivré et qui attendaient le réapprovisionnement. Et certaines pharmacies ont été réapprovisionnées assez rapidement, mais pas toutes malheureusement. La semaine qui vient va être certainement tendue. On n'est pas sûr d'avoir un réapprovisionnement normal entre les fêtes. On a une réunion avec des grossistes répartiteurs lundi matin à 8h pour essayer d'accélérer et d'améliorer la fluidité de l'approvisionnement des pharmacies. On va voir s'ils sont capables de se mobiliser. Mais on n'est pas à stock zéro.
On n'est pas à stock zéro. Gilles Bonnefond au micro de Delphine Evenou. En Belgique, plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce dimanche à Bruxelles contre la fermeture des salles de spectacle, de concerts, de cinéma décidées cette semaine par le gouvernement. Les acteurs de la culture dénoncent un arrêt de mort pour leur secteur et ils disent qu'ils ne se laisseront pas faire. Pierre Benazé a assisté à la manifestation.
Arrêtons la folie, la tyrannie Corona, vive la culture et l'industrie musicale. Pour Willy Van Der Beest, la ligne rouge a été franchie.
Leve de culture, de musique, industrie.
Marie-Odile Dupuis est venue du Brabant pour manifester. Elle n'a pas l'intention de fermer son lieu d'accueil pour le spectacle vivant.
On restera ouvert, on continue et on mettra un cordon sanitaire de gens devant le théâtre s'il faut pour empêcher la police d'intervenir. En tout cas, pour la première fois, on sent qu'au-delà des artistes, ici, aujourd'hui, le public est là aussi. Là, depuis deux jours, les gens réservent de tous côtés. Ça veut dire que les gens se rendent compte que si la culture tombe, il y a un pan de la société qui s'écroule et c'est dangereux.
Parmi la foule, les musiciens se font particulièrement entendre, comme Benoît van den Beemden, contrebassiste, qui a déjà deux concerts baroques annulés.
Sur ma pancarte, j'écris « injuste, incompréhensible, indécent, disproportionné, incompétence ». En fait, c'est notre sentiment par rapport aux décisions du gouvernement, donc qui a décidé la fermeture des salles de spectacle et des événements. C'est incompréhensible, en fait, parce que c'est pas du tout ce qui était mis sur la table par les scientifiques.
La fronde de la culture désarçonne les autorités. À Bruxelles, les bourgmestres ont décidé de ne pas a demandé à la police de contrôler si les spectacles ont effectivement fermé leurs portes. Pierre Benazet, France Inter.
Dans l'actualité aussi en France, l'interpellation tout à l'heure en Allemagne du détenu de la prison Donny qui s'était évadé mardi dernier de l'hôpital de Pontoise, interpellé avec sa complice qui avait tiré sur un surveillant au moment de l'évasion. Et à Lille, cette pétition et cet appel à témoignage lancé par une jeune femme de 21 ans, Clara Arnoux, avec sa maman. Clara est vendeuse à Lille. Il y a un peu plus d'un mois, elle a porté plainte après avoir été droguée, puis violée. Elle raconte avoir été abordée dans la rue par un homme, piquée avec une seringue, puis violée après avoir perdu connaissance. Depuis qu'elle a témoigné sur la chaîne Combini pour raconter son histoire, Clara a reçu de très nombreux messages de soutien, mais surtout des témoignages. Alors, elle poursuit son combat.
J'aimerais bien que les femmes surfent sur cette solidarité-là, parce que justement, c'est l'occasion, en fait, d'être solidaire et c'est le moment d'oser parler, en fait. Si j'en parle, c'est pas seulement pour moi, en fait, c'est pour toutes les filles qui vivent à Lille, toutes les filles en général qui se baladent le soir, qui rentrent, qui sortent, qui ont une vie, quoi, tout simplement. Je m'étais dit que ouais, en fait, c'était surtout pour prévenir et ça a super bien fonctionné au final que je m'exprime parce que il y a plein de gens qui ont été choqués, qui savaient pas que ça existait à Lille, qui savaient pas qu'il y avait des agressions en pleine rue à la seringue, qui savaient tout simplement pas que la seringue existait. Et du coup, ça a tellement fait parler et ça s'est tellement bien propagé qu'au final, il y a plein de gens qui sont prévenus, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire putain, on savait pas du tout qu'il y avait ça en ce moment. Merci de me prévenir. J'ai eu aussi énormément de témoignages de filles qui m'ont dit qu'elles n'avaient jamais osé en parler et qu'elles étaient très fières que moi, j'ai réussi à le faire. Et du coup, bah, c'est aussi une fierté pour moi d'en avoir parlé.
Un reportage de Diane Sprimont de France Bleu Nord.
France Inter. Anne Auger.
La mort d'un géant qui s'est dressé contre l'apartheid. Les hommages pleuvent après la mort de Desmond Tutu en Afrique du Sud. L'archevêque, le compagnon de combat de Nelson Mandela, est mort à 90 ans. Bonsoir Timor Özturk. Oui. C'est bien un géant, oui, qui s'éteint aujourd'hui à Johannesburg.
L'une des dernières grandes figures de la lutte contre l'apartheid, Desmond Tutu est né en 31 près de Johannesburg, d'une mère domestique, d'un père directeur d'école. Ordonné prêtre anglican, il grimpe les échelons du clergé sans se compromettre avec le régime. Au contraire, il organise des marches, soutient Nelson Mandela. En 84, il reçoit le prix Nobel de la paix et appelle au boycott économique de Pretoria. Nommé archevêque du Cap, il participe à des campagnes contre le sida, défend le préservatif. Puis après la fin de l'apartheid en 94, c'est lui qui préside la commission Vérité et Réconciliation. C'est loin d'être la fin de son engagement. Il soutient le Tibet, le Dalai Lama, se bat pour les droits des personnes LGBT et prend ses distances avec l'ANC, déçu par la corruption et la pauvreté en Afrique du Sud. Son dernier combat est celui pour le droit au suicide assisté, avant de se faire moins présent en public, à mesure que l'âge gagnait du terrain sur ce militant qui n'aura jamais abandonné ses idéaux.
Et pour les Sud-Africains, Desmond Tutu était devenu une référence morale, l'un des derniers représentants de cette génération qui a fait effectivement tomber le régime ségrégationniste. Voilà le reportage de Claire Bargelès à Johannesburg.
Dans le township de Soweto, la rue Vilakazi a hébergé deux prix Nobel de la paix. En bas se trouve l'ancienne résidence de Desmond Tutu, avant son déménagement au Cap, juste à quelques kilomètres de celle de Nelson Mandela. Lerato se souvient de l'archevêque comme d'un homme proche du peuple.
Quand j'étais petite, avant d'aller à l'école, je le voyais faire son jogging très tôt le matin. Il ne se comportait pas comme une célébrité et tout ça. Non, non, il était ouvert à tous.
À 23 ans, Pouleng est born free. Elle n'a jamais connu l'apartheid. Sa mère l'a emmenée devant la maison de Desmond Tutu afin que le souvenir de l'archevêque survive au travers des jeunes générations.
On le connaît surtout pour son statut religieux, mais j'ai aussi en tête tout le changement qu'il a apporté dans ce pays et dans le monde en général, et son humanité aussi.
À la fin de sa vie, Desmond Tutu s'était aussi illustré en dénonçant les violations des droits de la communauté LGBT. Minclay est venu déposer une bougie.
Je suis très émue aujourd'hui. Je suis une personne transgenre et il nous a toujours acceptés comme on était. C'est cela que j'aimais tant chez lui.
Les détails de ses funérailles n'ont pas encore été annoncés, mais la ville du Cap devrait se parer de lumière violette ces prochains jours pour rendre hommage à l'icône sud-africaine à la robe pourpre. À Johannesburg, Claire Bargelès, RFI pour France Inter.
Merci Claire Bargelès. En Israël, le gouvernement veut doubler le nombre de colons sur le plateau du Golan, territoire pris à la Syrie et occupé depuis 67. Il vient d'adopter un plan pour développer ce territoire stratégique. Michel Paul est à Jérusalem.
Doubler et doubler encore la population du plateau du Golan, c'est le but que s'est fixé le Premier ministre israélien Naftali Bennett, avec pour objectif ultime 100 000 habitants en 2030. Le plan de développement de ce territoire a été adopté à l'unanimité par le gouvernement israélien, réuni à cette occasion dans un kibboutz sur le Golan, et les ministres ont voté un budget d'1 milliard de shekels, soit environ 280 millions d'euros. Première étape, la mise en chantier de 7300 unités de logement. Deux nouvelles villes vont être construites sur le plateau. Il faut rappeler qu'en 1981, un texte ratifié par la Knesset, le Parlement israélien, a placé le Golan sous les lois, la juridiction et l'administration israélienne, une procédure qui n'a été reconnue que par Israël et aussi par les États-Unis en 2019. Une localité sur le plateau porte d'ailleurs depuis cette reconnaissance le nom de l'ancien président Donald Trump. Jérusalem, Michel Paul, RFI, pour France Inter.
Et depuis en février dernier, le nouveau chef de la diplomatie américaine a déclaré que le Golan avait une réelle importance pour la sécurité d'Israël. En France, le Boxing Day de rugby devait être un moment particulier, une journée de top 14 juste après Noël. C'était l'occasion de faire le spectacle à l'heure où les autres sports font la trêve, sauf que le Covid est passé par là. Et ce soir, il n'y a plus qu'un match après le report de l'affiche du jour, Stade Toulousain, Stade Français. Il reste donc Perpignan-Castres. Le match a débuté à 18h. Bonsoir Fanny Lechevestrier.
Bonsoir.
13-7 en faveur de Perpignan et nous sommes à la mi-temps, Fanny.
Oui, ça a repris depuis 7 minutes désormais dans cette seconde période et un début de seconde période très tendu pour les Catalans qui sont mis au supplice, qui doivent s'employer pour ne pas encaisser d'essai. Mais c'est vrai, le petit promu du top 14 mène de 6 points pour le moment et s'accroche vraiment à ce résultat dans une ambiance. C'est vrai, on a beaucoup parlé de ce Boxing Day qui a pris l'eau de toutes parts, mais ce soir ici à Aimé Giral à Perpignan, il y a vraiment une superbe ambiance. On est en train de battre le record d'affluence de la saison avec près de 14 000 spectateurs, 14 000 supporters acquis, bien entendu, à la cause des Perpignanais et qui vont tenter de leur apporter une énergie supplémentaire pour qu'ils s'imposent. Pour l'instant, 13-7 après 48 minutes de jeu.
Merci Fanny Lechevestrier à Perpignan contre Castres. L'année 2021 s'achève dans quelques jours et c'est le moment de se souvenir des belles choses comme des mauvaises. On va passer en revue cette année 2021 avec vous, Antoine Quevilly, bonsoir.
Bonsoir Anne.
Lui, ça fait déjà 2 ans qu'il est là.
Il n'est pas parti, non. On a juste appris à vivre avec. Le coronavirus fait toujours des vagues. 3 cette année en France, dont l'actuelle, la 5e. Covid long pour la planète, les variants suivent désormais les lettres de l'alphabet grec. Delta arrive en février.
La crise du Covid en France arro sur le variant anglais.
Cette nouvelle souche pourrait remplacer rapidement l'ancienne sur tout le continent.
Il n'est donc pas question que nous baissions la garde dans les semaines à venir.
En avril, la barre officielle des 100 000 morts est franchie en France. Et la vaccination lancée fin 2020 se fait toujours au compte-gouttes. Faustine Calmel le constate à Aubusson.
À la pharmacie Espagne, on a commencé à vacciner la semaine dernière avec 2 flacons d'AstraZeneca.
Ça représente 11 doses par flacon, donc on a vacciné 22 personnes la semaine dernière et on va recommencer vendredi.
Première piqûre et première réticence.
Pour l'instant, je pense pas que je le ferai.
Moi non plus.
Pour moi, ils auraient dû faire quand même beaucoup plus de tests avant de le lancer sur le marché parce que là, on sait pas trop.
La quatrième vague se profile à l'été. Le 12 juillet, Emmanuel Macron change de braquet.
Pour nous protéger et pour notre unité, nous devons aller vers la vaccination de tous les Français. Car c'est le seul chemin vers le retour à la vie normale. Faites-vous vacciner.
Obligation vaccinale pour les soignants et les aidants, extension du pass sanitaire, c'est aussitôt la ruée pour se faire piquer, comme à Marseille, avec Mathilde Vinceneux.
Devant les grilles, ils sont une centaine à se présenter sans rendez-vous. Sabrina patiente avec son fils de 12 ans, elle se sent contrainte et elle est en colère.
Je suis contre pour mon fils et j'étais contre pour moi. Ils nous prennent en otage. On n'a plus le choix.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous préparez vos cartes vitales, vos pièces d'identité. Et votre plus beau sourire.
30 millions de Français complètement vaccinés à la mi-juillet, on passe à 50 millions 2 mois plus tard. Bars, restos et même cinéma, la vie sociale reprend pour de bon grâce au pass sanitaire.
Ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on attendait ça depuis longtemps. On a l'impression de recommencer comme avant.
Mais chaque fin de vague fait désormais craindre la suivante. Retour du masque à l'école primaire à l'automne.
Les petits sont pas super contents, mais il faut faire avec.
Ils osent pas vous le dire, mais ils en ont à la casquette du masque.
Je sais pas quand ça va s'arrêter.
Les contaminations repartent en flèche fin novembre et le variant Omicron arrive d'Afrique du Sud. Pour l'épidémiologiste Antoine Flao, l'histoire va se répéter.
Omicron va être le variant qui va supplanter Delta dans quelques semaines dans toute l'Europe et probablement rapidement dans le monde.
Delta en 2021, Omicron en 2022 comme un jour sanitaire sans fin. 5 millions de morts dans le monde début décembre. Selon l'OMS, le bilan de la pandémie serait en fait 2 à 3 fois plus élevé.
Une lueur d'espoir dans le monde, Antoine. C'était en début d'année.
Washington, le 20 janvier dernier.
The 46th President of the United States, Joseph R. Biden Jr.
Joe Biden, président. Kamala Harris, vice-présidente. C'est une femme, la première, elle est noire. Et Lady Gaga pour la bande-son démocrate sur les marches du Capitole. Donald Trump out, mais revanchard.
Alors au revoir, nous vous aimons, nous reviendrons d'une manière ou d'une autre.
Bonsoir Sébastien Paour.
Bonsoir Antoine.
Vous êtes notre correspondant permanent à Washington. Joe Biden, bientôt 1 an président. Pour quel bilan Sébastien? Déjà des espoirs déçus?
Oui, Trump parti, le pays est toujours aussi polarisé, encore plus avec l'assaut inédit sur le Capitole qui continue de faire la une des journaux, notamment avec les condamnations des émeutiers. Les réformes Biden, sociales ou d'infrastructures, ont du mal à passer parce que l'aile centriste du camp démocrate, en l'occurrence 2 sénateurs, bloquent leur vote. Les critiques sur une Kamala Harris trop inexistante se multiplient. Jamais un président n'a eu une cote de popularité aussi basse en début de présidence, en plus de 30 ans. Et Trump est clairement dans les starting blocks pour se représenter en 2024. Une première année de mandat pas évidente pour Joe Biden en effet.
À l'international, Sébastien, le retrait d'Afghanistan montre clairement un avant et un après.
Oui, et ça aussi, ça pèse dans le bilan Biden. 20 ans de guerre, certes terminé fin août, mais le retrait s'est fait vite et mal pour beaucoup d'observateurs et pas seulement chez les républicains. Les talibans sont revenus au pouvoir en quelques jours. L'attentat à l'aéroport de Kaboul a tué 13 soldats américains juste avant le départ du dernier. Tout cela à la veille du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre. Les critiques d'un retour à la case départ, évidemment, n'ont pas manqué.
Le 5 octobre, France Inter organise une journée spéciale avec les Afghanes. Marwa ne sort plus de chez elle. La jeune femme se cache pour nous envoyer ce message.
Depuis cette nuit-là, on n'a plus jamais réussi à s'endormir.
Couldn't fall asleep.
À vraiment dormir.
Really sleep again. We are scared.
On a peur.
And we lost everything.
Et on a tout perdu.
There's no hope anymore.
Il n'y a plus d'espoir.
Les talibans n'autorisent quasiment aucune femme à travailler et l'ONU redoute un effondrement de l'économie. Sébastien, comment ne pas évoquer aussi l'affaire des sous-marins australiens?
Oui, c'est Paris qui apprend par la presse que la vente de ces 12 sous-marins Barracuda est annulée, que l'Australie a choisi finalement de s'allier avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Grosse colère du chef de la diplomatie Jean-Yves Le Drian. L'amitié franco-américaine en prend un coup.
Ça ne va pas entre nous, ça ne va pas du tout. Dans une vraie alliance, on se parle, on ne se cache pas.
on explique nos interrogations, on respecte la souveraineté. Ça n'a pas été le cas, c'est pourquoi il y a crise.
Depuis, ça va mieux. Kamala Harris, la vice-présidente américaine, est venue en France. Et Biden et Macron se sont vus fin octobre à Rome, en marge du sommet du G20.
Et la France se console en vendant 80 Rafales et 12 hélicoptères Caracal aux Émirats Arabes Unis. Merci Sébastien. De son côté, Joe Biden aura eu le mérite d'acter le retour des États-Unis au sein des accords de Paris sur le climat. La COP26 s'ouvre à Glasgow le 1er novembre par le discours puissant d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU.
It's time to say enough.
Il est temps de dire assez. Assez de brutaliser la biodiversité. Assez de nous tuer nous-mêmes avec le carbone. Assez de traiter la nature comme des toilettes. Assez de brûler et forer et extraire toujours plus profond. Nous creusons nos propres tombes.
Résultat, 15 jours après, des promesses pour réduire la déforestation ou les émissions de méthane, des promesses pour stopper la vente de voitures thermiques neuves en 2035, des promesses désormais concrètes, mais pour plus tard.
L'Europe se veut moteur sur le sujet avec son pacte vert détaillé en juillet, un dossier brûlant, parmi d'autres, cette année, Antoine.
Comment digérer le Brexit? Le conflit des licences de pêche entre la France et l'Angleterre traîne en longueur.
Les marins, leur métier, c'est de pêcher du poisson, c'est pas de faire la guerre. Donc on va pas refaire un énième épisode de la guerre de 100 ans.
Autre question, quel leadership à l'avenir pour l'UE, toujours en quête d'unité? La France veut jouer sa carte en prenant la présidence de l'Union en janvier. L'Allemagne tourne une page de 16 ans. Angela Merkel laisse la place à Olaf Scholz.
Et je vous demande de travailler pour le bien de notre pays.
Und ich wünsche Ihnen dabei alles Gute.
Enfin, comment régler la crise migratoire? Nouvelle arme géopolitique des dictateurs. La Biélorussie de Loukachenko orchestre l'afflux de migrants à sa frontière avec la Pologne pour se venger de sanctions occidentales. Des Kurdes d'Irak meurent là-bas, nous raconte Lucille Wasserman.
Dans un cimetière au nord de l'Irak, une dizaine d'hommes recouvrent de terre le corps de Gélan, 25 ans. Ce jeune Kurde est mort fin octobre à la frontière polonaise en rêvant d'atteindre l'Allemagne. Sa dépouille vient d'être rendue à sa famille, à Souakib, son cousin.
Il n'avait pas mangé pendant 5 jours et il était diabétique. Il n'avait pas ses médicaments avec lui et il est mort comme ça.
Autre drame dans la Manche, le 24 novembre, et la mort d'au moins 27 migrants partis de Calais. Nouvelle crise diplomatique entre Paris et Londres. Depuis début décembre, un avion européen Frontex surveille les côtes de la Manche et de la mer du Nord. En Méditerranée, plus de 1300 morts depuis janvier. En visite à Chypre, le pape François évoque un cimetière froid sans pierre tombale. L'Église, rattrapée en octobre par le rapport Sauvé en France. Depuis 1950, on recense 330 000 victimes d'abus sexuels par des clercs, des religieux ou des laïcs. Patrick Goujon en fait partie. Ce prêtre jésuite a été abusé par un curé à Verdun entre ses 7 et 11 ans.
Ce qui est très fort, c'est le sentiment pour la première fois que les choses sont dites avec la plus grande clarté. Pour qui que ce soit, mais moi qui ai été victime, c'était une étape nécessaire, attendue. C'est un cap qui est franchi. De sortir d'un langage qui est atténu, qui euphémise en permanence. Une parole où le responsable de l'épiscopat français parle de sa honte. C'est une première étape décisive, mais tout le travail est devant nous, nous, l'Église catholique en particulier. Je parle de moment chirurgical. Ça fait mal, mais c'est une opération nécessaire pour soigner.
La conférence des religieux et religieuses de France, réunie à Lourdes, crée une commission de réparation pour les victimes. Les Pandora Papers, c'est le scandale financier de l'année. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont épinglés pour évasion fiscale après l'enquête du Consortium international des journalistes d'investigation dont fait partie France Inter.
Emmanuel Macron sera-t-il candidat à sa réélection en avril 2022? Antoine Quevilly, c'est une question qui est restée sans réponse toute l'année.
Oui, dans une France que les sondages font largement pencher à droite, c'est l'une des clés de la prochaine présidentielle. À noter que pour la première fois, trois des plus anciennes familles politiques misent en même temps sur des femmes. Anne Hidalgo au PS.
Aujourd'hui, je suis prête.
Marine Le Pen au RN.
Je vais gagner cette élection présidentielle.
Et Valérie Pécresse pour LR.
J'ai le courage de dire et la volonté de faire.
La voilà début décembre, virtuellement qualifiée pour le second tour, si l'on en croit les sondages. Deux mois plus tôt, c'était Éric Zemmour, le polémiste d'extrême droite, déclare sans surprise sa candidature le 30 novembre.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ?
Coïncidence, c'est ce jour-là qu'entre au Panthéon Joséphine Becker. Accompagnée du chant des partisans, son cénotaphe remonte un immense tapis rouge jusqu'à l'édifice, transformé en écran géant. Édition spéciale sur France Inter avec Fabienne Sintès et Amélie Perrier.
Joséphine Becker en uniforme,
C'est la période résistante et combattante, surtout quand elle s'engage dans l'armée de l'air avec un panthéon en bleu, blanc, rouge qui s'anime hein, avec des coupures de journaux qui apparaissent en ce moment sur la façade du panthéon. Et des partitions de musique où elle aurait
caché,
écrit à l'encre sympathique, effectivement, les renseignements qu'elle transmettait à la France libre.
Militante, résistante et artiste, Joséphine Baker n'est que la sixième femme à rejoindre la place des grands hommes, la première femme noire. Devoir de mémoire au Panthéon et devoir de justice également à Paris, lorsque s'ouvre le 8 septembre le procès hors norme des attentats terroristes du 13 novembre 2015. Avec Sophie Parmentier, Charlotte Piret nous raconte chaque jour le témoignage bouleversant des rescapés, mais aussi des familles endeuillées.
Comme ce petit garçon de 5 ans venu au concert avec sa maman et sa grand-mère, elles sont mortes toutes les deux ce soir-là. Maël, lui, a été récupéré par un policier. Un policier dont le grand-père de Maël lit le témoignage à la barre. Il y raconte comment il a vu les pieds d'un enfant bouger sous un corps inanimé. J'ouvre tout de suite mon blouson pour y cacher sa tête. Ils sortent du Bataclan. Tout le temps où le petit est dans mes bras, il me répète « Vous êtes gentil, monsieur. Vous êtes gentil, monsieur. » Maël a aujourd'hui 11 ans. Il est assis sur l'un des bancs de la salle d'assises. Juste derrière lui, Aurélie, venue raconter la perte de Mathieu, son compagnon, père de Gary, 3 ans. Ses 3 assiettes que pendant si longtemps, elle a continué à mettre machinalement à table. Et la violence du geste qu'il faut pour enlever une assiette sans montrer à mon fils que je suis effondrée.
Le procès doit s'achever fin mai. Je vous renvoie d'ailleurs à notre dossier complet sur franceinter.fr.
Ils n'avaient peut-être pas énormément de choses en commun, si ce n'est leur combat contre le cancer.
Axel Kahn, Bernard Tapie, à la fin c'est le crabe qui a gagné, mais les deux hommes nous laissent une formidable leçon de vie. Le généticien tout d'abord, invité sur France Inter quelques semaines à peine avant sa mort.
Le plus probable en effet est que je sois en train de parcourir l'itinéraire final de ma vie. C'est intéressant comme expérience. On ne la vit qu'une seule fois, puisqu'ensuite on est mort. Je ne le fais pas en chantant, j'aime la vie, mais je ne le fais pas non plus dans la terreur. Mort ou pas mort, j'ai été intensément heureux.
Ça vous fait vraiment pas peur, la mort ?
Ah non, vraiment. Quand vous partez, vous regardez derrière. Et il y a plein de gens qui pleurent et il y en a quelques-uns qui rient. Bah, vous n'êtes pas mécontent d'avoir vécu.
Merci.
Ce qui est chiant, c'est si c'est le contraire.
Bernard Tapie était venu, lui, sur Inter il y a 3 ans. Réussir sa vie, il l'avait chanté, avant de faire des affaires, de la politique, du cinéma, de la prison et bien sûr du foot. Marseille enterre chez elle ce titi parisien qui lui a donné la Coupe d'Europe.
On était là à l'époque avec les Papel, les Waddle et tout ça. Cette équipe merveilleuse.
Aujourd'hui, on dit à jamais les premiers et c'est grâce à lui.
Bernard Tapie, c'était le Robin des Bois des temps modernes.
On peut pas l'oublier, c'est pas possible.
Salut bonhomme.
Ici Bob Sinclair, j'écoute.
Si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille.
Toi, tu as souvent l'air étonné, ton défaut.
Vous plaisez aux femmes?
Je ne sais pas.
Menteur.
Bébel, lui, plaisait à tout le monde. Jean-Paul Belmondo quitte la scène un matin de septembre. Tous les cinémas lui convenaient, de Pierrot le Fou au Magnifique, de Stavisky à l'As des As.
Quel genre de type je suis, d'après toi ?
Ben, le genre aventurier.
Et c'est quoi un aventurier ?
D'Artagnan, Zorro.
Si un aventurier, c'est un type qui n'est heureux que quand il nage dans les emmerdements, alors d'accord, je suis un aventurier.
Son cercueil quitte les Invalides sous la musique du professionnel, c'était son souhait. Le cinéma pleure aussi Bertrand Tavernier, Jean-Claude Carrière, Jean-Pierre Bacri et Jean-François Stévenin. La reine Elisabeth est veuve, le prince Philippe a frôlé les 100 ans. L'Angleterre perd aussi Charlie Watts, le batteur So Cool des Rolling Stones. Retour enfin sur un séisme musical en février. Deux robots casqués dans le désert, l'un s'éloigne et explose. Les Daft Punk, rois de la French Touch électro, symbolisent leur séparation dans une vidéo. Émotion aussi en sport cette année, avec de l'or en judo pour Clarisse Agbegnénou au JO de Tokyo.
J'ai cette médaille enfin !
Mais rien à l'Euro de football pour les Bleus de Didier Deschamps.
On a connu des moments fabuleux, c'est un moment triste, on n'avait plus l'habitude, mais il faut l'accepter, c'est ça aussi le sport.
Et l'on espère du mieux l'an prochain au Mondial au Qatar. En 2022 justement, que faut-il ? Nous souhaiter, vous souhaiter sans doute de rester rassemblés. On continuera à vous écouter comme vous, vous nous écoutez. Votre fidélité cette année nous pousse à croire que vous êtes bien sur France Inter.
Mais oui, on est bien sur France Inter, merci beaucoup Antoine Quevilly. Pour nous avoir remis en mémoire tous ces événements. Le temps, maintenant, mais pour demain.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Et c'est le retour de la pluie, Jean-Pierre Hameau de Météo France.
Demain, une nouvelle perturbation avec des pluies marquées et un vent assez fort va traverser notre pays d'ouest en est. Elle sera suivie d'une traîne active accompagnée de fréquentes averses. Prévoyez tout de même des éclaircies l'après-midi autour du golfe du Lion et jusque vers les Bouches-du-Rhône. Les cumuls de pluie seront localement importants, en particulier du côté de la Nouvelle-Aquitaine et de Midi-Pyrénées. À noter des chutes de neige sur le massif alpin au-dessus de 1600 mètres d'altitude. Et puis on surveillera un net renforcement du vent en soirée et durant la nuit de lundi à mardi sur la côte atlantique. On attend des rafales proches de 90 voire 100 km par heure. Côté température, la douceur va monter d'un cran avec des maximales comprises entre 9 et 18 degrés, avec 9 à Mulhouse, 10 à Lille, comptez 12 à Paris, 13 à Rennes, Bourges et Limoges. Prévoyez 16 à Bordeaux comme à Toulouse et Marseille, 17 à Toulon et la maximale de 18 degrés sera observée à Perpignan.
Jean-Pierre Rameau de Météo France.